Bonjour, en ce 22 novembre, c'est la fête de Sainte-Cécile, la grande patronne des musiciens, et des musiciennes évidemment. Elle a vécu au cours des premiers siècles, mais son histoire n'est pas très sûre. Mais nous avons quand même une vie d'elle qui a été écrite plusieurs siècles après sa mort, mais quand même, qui est très intéressante, et même si ça demeurait une légende, ça demeure très intéressant. On croit bien avoir trouvé son tombeau, ça semble assez sérieux, et elle est quand même extrêmement attachante sous plus d'un point, ne serait-ce que par cette sculpture extraordinaire qu'on a fait d'elle, un jeune sculpteur, Moderna, qui a fait, juste vers l'an 1600, une sculpture très connue où l'on voit le corps d'une jeune fille étendue, telle que le sculpteur dit lui-même l'avoir vue. Voici le texte de ce sculpteur. Il dit que Paul, cardinal au titre de Sainte-Cécile, le titre de Sainte-Cécile, ça veut dire la paroisse Sainte-Cécile, si vous préférez. Alors, disons donc, Paul, cardinal à la paroisse Sainte-Cécile, ou curé de Sainte-Cécile, ou responsable de la paroisse de Sainte-Cécile, voici pour toi l'image de la très sainte Vierge Cécile, que j'ai vue moi-même gisant intacte dans son sépulcre, et que, pour toi, j'ai représenté dans ce marbre, exactement avec la même position du corps. Alors, on soutient que, en cette année où on a trouvé particulièrement le corps de Sainte-Cécile, à la fin du XVIe siècle, son corps était intact. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, je vais vous parler longuement de cette Sainte-Cécile. Nous allons essayer d'approfondir la question et de voir qui est cette patronne de quelques petites villes ou villages au Québec. Il y a des Sainte-Cécile de l'Évrard, hein? C'est une municipalité de paroisse sur la rive sud du fleuve, à 30 kilomètres à l'est de Bécancour. Il y a aussi Sainte-Cécile de Milton, c'est une municipalité de canton, à 40 kilomètres au nord de Granby. Sainte-Cécile de Witton, bon, j'ai des noms anglais, hein? Milton, Witton. C'est une municipalité, celle-ci, bornée par la rivière Chaudière au sud-est. Et elle est ici, cette municipalité, au pied du mont Sainte-Cécile, d'ailleurs, au nord du lac Mégantic, au sud-ouest là, du lac Drolet, ou Drolette. Je prends ces renseignements-là, je vous le signale, dans un immense livre publié par la Commission de toponymie du Québec, Noms et lieux du Québec. C'est un dictionnaire illustré. C'est énorme. Ça se vend $80 au gouvernement. Mais ça vaut bien ça parce que c'est très, très, très bien fait. Et vous trouvez là les villages, peut-être d'où vous venez, où vous avez vécu, où vous avez déjà travaillé, où vous avez des parents. Et c'est très intéressant. Noms et lieux du Québec. Dictionnaire illustré. Et c'est paru... C'est publié par le gouvernement du Québec, les publications du Québec. Mais passons maintenant à la vie spirituelle, à cette rencontre spirituelle avec Sainte-Cécile. Le problème de Sainte-Cécile, je vous en ai glissé un mot, n'est pas près d'être résolu. Hein? C'est un grand spécialiste, le père Delehaye, dans une étude sur le légendier romain qui est paru à Bruxelles en 1936, c'est un ouvrage extrêmement important sur le problème des légendes qui entourent certains saints au début de l'Église. Car l'Église s'est montrée de plus en plus rigoureuse et sincère vis-à-vis certains problèmes comme ça pour essayer d'approfondir la réalité ou la véracité des histoires qui entourent certains saints du début de l'Église. Ce sont de très grands spécialistes, des hommes souvent très fidèles à leur sacerdoce, à leurs études, très amoureux et désireux de faire aimer l'Église davantage pour qu'elle apparaisse aux esprits critiques comme étant une société, l'Église, qui est vraiment sincère et vraie. Alors, il ne faut pas s'effrayer devant ce que disent certains grands savants de notre Église sur certains saints. Alors, ne soyez pas blessés si je vous dis certaines choses sur Sainte Cécile. Je les ai puisées dans des documents sérieux publiés par les bénédictins de Paris dans leur immense ouvrage en 13 volumes. Donc, ce que dit le père de Lehaye, c'est ceci. Sainte Cécile est si célèbre dans l'Église, et sa légende a été si souvent racontée, que beaucoup de personnes ne peuvent se faire à l'idée qu'il règne quelque obscurité dans l'histoire de son martyre et des origines de son culte. Actuellement encore, il est permis d'affirmer qu'il n'y a peut-être pas de sujet plus embrouillé dans toute la géographie romaine, c'est-à-dire dans toutes les vies de saints, des saints de la ville de Rome. Et le père de Léa continue, « Par quelque bout qu'on l'envisage, on se heurte à de graves difficultés. Nous n'avons pas la prétention de l'éclairer définitivement et à la satisfaction de tout le monde, après tant d'autres qui s'y sont essayés avec des succès divers. » Voilà la mise au point qui semble un peu pessimiste, mais ne nous effrayons pas, on a aussi d'autres points de vue très intéressants. En tout cas, le culte de Sainte Cécile a pris naissance, mais s'est développé dans les deux endroits privilégiés qui ont abrité son corps successivement. Là, les catacombes de Saint-Calliste, qu'on peut visiter à Rome, et la basilique de Sainte Cécile, qui est au Transtévère. Transtevere, c'est une section de Rome. C'est à visiter. C'est un peu sombre le soir. Ça fait un peu peur, mais je n'ai jamais éprouvé quelque inquiétude dans ces quartiers un peu sombres. Les gens sont très gentils. Moi, j'ai jamais eu de problème en tous les cas. Bon, pour ce qui est de la crypte de Sainte-Cécile dans les catacombes de Saint-Calliste, bien, faut rappeler que les catacombes de Saint-Calliste doivent leur nom à celui qui a ouvert ce nouveau cimetière aux chrétiens. Qui est-il? C'est un pape, le pape Calliste, qui a régné de l'an 217 à 222. C'est un homme d'action, il était entreprenant. Il a fait déposer le corps de son prédécesseur, le pape Zéphirin, car il y a eu un pape Zéphirin, oui, dans une de ses cryptes qui devait recevoir par la suite d'autres papes du IIIe siècle. Sauf ses propres restes. Lui, il n'a pas été enterré là, Calliste. Au fond de la crypte des papes, on peut voir à gauche une galerie. Vous savez, des catacombes, c'est des souterrains. Je le dis pour les gens qui ne sauraient pas au juste de quoi je parle. Des catacombes, ce sont des cimetières souterrains sous la ville de Rome où les premiers chrétiens persécutés se réunissaient pour célébrer des messes sur les tombes des saints, des martyrs. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, les prêtres célèbrent la messe sur des reliques, des petits morceaux de corps de martyrs, en souvenir des origines des premières célébrations eucharistiques qui se faisaient au temps de ces persécutions, alors que les chrétiens à Rome étaient persécutés par les empereurs, hein, comme on sait, ils étaient dévorés par les lions, etc. Alors donc, au fond de la crypte, s'ouvre à gauche, une galerie qui conduit à une salle presque carrée de 6 mètres de côté environ. C'était une salle funéraire. Assez classique, hein? Les murs étaient creusés de ce qu'on appelle des loculi, c'est-à-dire, on voyait ça autrefois au musée de Cire devant l'oratoire Saint-Joseph. Il y avait des catacombes, là, qui avaient été reconstituées. C'était intéressant, dommage que ce soit disparu. Et puis, aujourd'hui, il y aura un monde fou, je pense, pour aller là de plus en plus. Ça intéresserait beaucoup de gens. Et puis là, les loculi, ce sont des trous que l'on creusait dans les murs pour essayer d'établir une espèce d'hôtel, si on veut, au-dessus du tombeau d'un martyr où il avait enfermé son sarcophage, c'est-à-dire un tombeau de marbre sculpté dans lequel était enfermé le corps du martyr ou du saint. Et là, le prêtre célébrait, dos au peuple, une messe. Et les gens, petits groupes de chrétiens, se réunissaient. Il y avait là des gens de la très haute société romaine, aussi bien que des esclaves et des gens très simples. Car le christianisme a toujours été une société qui, en principe et à la base, reconnaît que tout le monde est frère et tout le monde est égal. Oh, ça n'a pas été bien vécu, hein? On reçoit avec beaucoup d'honneur des gens dignes et les autres, on les oublie souvent. C'est bien malheureux. Mais à Saint-Benoît-du-Lac, j'aime bien. Au monastère Saint-Benoît-du-Lac, on peut voir un jeune, un peu égarouillé avec ses cheveux étranges, qui sera reçu le premier et assis à la première place. On ne fait pas de distinction entre lui et un monseigneur qui peut être là. Le monseigneur sera au 10e rang. Et c'est assez surprenant quand on voit ça. C'est que les bénédictins reçoivent tout le monde comme étant le Christ. Et alors donc, il y avait ces loculi qui étaient tous vidés, qui contenaient quelques sarcophages, là, sont tous disparus d'ailleurs. Et celui de Saint-Cécile occupait une niche assez grande, là, au ras du sol. Et puis, on y a placé récemment une réplique de la statue de Moderna dont je vous ai parlé, et dont je vous reparlerai au besoin plus tard. Le culte était rendu ici à Sainte-Cécile. C'est assez surprenant, on n'a aucun témoignage positif plus ancien qu'une peinture sur un mur qui date du 7e siècle. Alors, on est loin. Il y a là une différence de 4 siècles. On passe du 3e au 7e siècle. On a heureusement un peu plus de détails sur la famille des Cicilii, ou de leurs parents par les femmes des les Ciciliani. Alors, il y a toutes sortes de sources, il y a un certain nombre d'inscriptions qui s'échelonnent du 2e siècle au début du 5e siècle, qui nous apprennent que les membres de cette grande famille, qui étaient des païens d'abord, puis qui sont devenus chrétiens, qui se sont fait ensevelir dès le temps de la République, sur le bord de la voie Appienne, déjà célèbre dans l'Antiquité, par tous ces tombeaux. Et un très grand archéologue, Monsieur de Rossi, c'est un nom à retenir car on retrouve souvent son nom, c'est un homme qui a fait des recherches extrêmement poussées à Rome pour retracer l'histoire de notre Église romaine. Et c'est grâce à lui qu'on sait beaucoup de choses. Et alors, Monsieur de Rossi a trouvé dans la crypte de Sainte-Cécile des fragments d'inscriptions funéraires de membres de la famille des Cicilii. En tous les cas, on peut conclure que la crypte de Sainte-Cécile était bien la chapelle funéraire des Cicilii, de cette famille. Je saute par-dessus beaucoup de renseignements. Je ne vous donne que ce qui peut être assez intéressant. Alors, autant qu'on peut en juger par son emplacement, puisqu'il ne reste rien, le tombeau Saint-Cécile était le plus important de la crypte, dont il occupait, en plus de ça, l'endroit le plus important, le plus digne. Alors, pourquoi a-t-elle eu cet honneur? Elle a fort bien pu être contemporaine du pape Calliste, comme la légende rapporte. Et puisqu'il faut chercher dans cette famille très illustre, le donateur très généreux ou la donatrice extrêmement généreuse qui a permis la création du nouveau cimetière de la voie Appienne, pourquoi pas penser à elle, hein? Alors, cette déduction peut sembler assez ingénieuse, mais un autre rapprochement entre le pape Calliste et Cécile vient ajouter une curieuse coïncidence. Bon, je saute par-dessus des pages et des pages pour arriver au culte de Sainte-Cécile jusqu'au 5e siècle. Alors, le culte des martyrs s'est organisé à Rome à la fin du 3e siècle, donc le siècle où serait morte Sainte-Cécile. Et au 4e siècle, après la paix de l'Église, eh bien, les auteurs ecclésiastiques, là, des noms qu'on connaît, Damase, Ambroise, Prudence, etc., ont chanté les louanges de ces martyrs-là. Ils ont écrit des hymnes que l'on chante, on chantait encore dans l'Église. Puis je crois qu'on en utilise encore quelques-uns après. Quoi? C'est incroyable quand on y pense. Après 16 siècles que les bouches des chrétiens chantent ces louanges, ces hymnes à l'égard des martyrs. Alors là, les fidèles ont montré leur dévotion. Ils répandaient à profusion des verres dorés, c'est assez surprenant, hein? Des plaques de verre dorées qui représentaient les saints martyrs. Ou bien on recouvrait les murs voisins de leurs tombeaux de graffitis. Et ça, c'est très intéressant, les graffitis. Les chrétiens écrivaient ces graffitis-là sur les murs pour solliciter l'intercession de ces martyrs auprès de Dieu, parce qu'ils s'appuyait sur la sainteté de ces gens-là pour parler à Dieu. Ça date de très longtemps, comme vous voyez. Et les graffitis sont aussi très intéressants autour du tombeau de Saint-Pierre, car il y a là des graffitis qui nous montrent bien que dès le 1er siècle, on savait que c'était Saint-Pierre qui était enseveli là où est la basilique Saint-Pierre de Rome, sous l'autel du pape. Alors, dans ce temps-là, on dressait la liste des anniversaires des martyrs, moment où ils avaient été ensevelis. Des listes se passaient d'église en église. On a toutes sortes de détails là-dessus qui sont très intéressants. Et vers l'an 500, c'est là que tout à coup on découvre le nom de Cécile, parce que dans les listes avant, le nom de Cécile n'y apparaît pas. C'est vers 500 que tout change brusquement, l'apparition d'un document nouveau, un document capital dans l'histoire du culte de Sainte-Cécile. C'est sa passion, c'est-à-dire son histoire, si vous voulez, sa biographie. Ce récit a joui d'une grande popularité. C'est ça qui est intéressant avec Sainte-Cécile, c'est qu'il y a cette passion très populaire, comme une légende fantastique, que des millions de gens ont connue à travers l'histoire. Alors, la grande popularité n'est pas éteinte aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien lire cette passion, cette vie de Sainte-Cécile. Je vais vous la raconter. Oh, la plupart de ceux qui admirent Sainte-Cécile l'ont peut-être jamais lu, même pas en traduction. C'est très long. On peut pas tout traduire ça. Il faudrait faire une émission de 4-5 heures. Mais je vais essayer de vous en donner un petit aperçu avec l'essentiel. Donc, l'auteur commence par s'étonner en voyant graver partout les éloges des hommes célèbres que l'on ne refuse pas de laisser dans l'oubli les victoires des soldats du Christ. Et pourtant, les récits rapportent beaucoup de bien, hein? Des louanges à Dieu, l'édification aux auditeurs, les honneurs aux martyrs, la tristesse aux infidèles, la jalousie aux incrédules, règles aux indisciplinés, et à tous les saints, joie dans, avec le Christ. C'est ce que dit l'auteur. Il dit que seul le diable gémit d'être vaincu. Les ennemis pensaient vaincre les saints de Dieu en les tuant, et ce sont eux qui ont triomphé. Or, par leur souffrance, bien, les martyrs ont gagné la gloire éternelle, et comme tous ceux qui ont suivi le Christ, ils ont vu sa prière s'exaucer. « Père, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. » C'est un texte de Saint Jean, chapitre 17. Bon. Alors voilà le mariage de Cécile puis la conversion de son mari Valérien. Je cite des extraits de ce texte très ancien qui date d'à peu près l'an 500. Sainte Cécile, vierge clarissime, clarissime, c'est très illustre si vous voulez, gardait toujours l'évangile du Christ caché sur sa poitrine. C'est beau ça, hein? Ça rappelle Pascal qui gardait contre lui un texte très pieux qu'on a découvert dans la doublure de son manteau. Hein? Donc elle gardait toujours l'évangile du Christ caché sur sa poitrine et ne cessait ses conversations avec Dieu ou sa prière ni jour ni nuit. On exagère un peu sans doute, hein? Mais enfin, c'est beau quand même. Elle avait pour fiancé un jeune homme, Valérien, qui, brûlant d'amour pour la Vierge, fixa le jour des noces. Cécile portait sur sa chair un cilice. C'est un petit, je vous l'ai déjà dit, c'est comme du crin de cheval, si vous voulez. Ça perce un petit peu la chair. Hein? Alors, donc, Cécile portait sur sa chair un cilice qui cachait ses vêtements tissés d'or. Mais à cause de ses parents et de son fiancé, elle ne pouvait montrer que son cœur n'aimait que le Christ. Vint le jour des noces, et pendant que jouaient les orgues, c'est une mauvaise traduction ça, hein? C'est pendant que les organes, la voix chantait. Donc, pendant que jouaient les orgues, elle chantait dans son cœur pour le Seigneur seul, « Que mon cœur et mon corps restent immaculés pour que je ne sois pas confondu. » Et c'est de là que vient qu'elle est patronne des organistes. C'est une mauvaise traduction. C'est l'organe vocal, puis on a traduit ça en orgue. Alors donc, pendant que jouaient les orgues. Non, c'est pas ça. Mais ça fait rien, on peut la considérer comme patronne des organistes et patronne des musiciens. Donc, jeûne en 2 ou 3 jours, elle priait le Christ, les anges, les apôtres et tous les saints de lui garder sa virginité. Encore cette obnubilation sur la virginité, mais vous allez voir que ce désir étrange, très monastique, un peu trop monastique dans la perception du mariage, fait que cette femme va se marier et elle va rester vierge. Quand vint la nuit et qu'elle se trouva seule dans sa chambre avec Valérien, elle lui dit qu'elle avait un secret à lui révéler, s'il promettait d'observer ce qu'il faudrait. Alors Valérien répondit qu'il ne voyait pas la nécessité de l'apprendre. Je vous lis toujours le vieux texte de l'an 500. « C'est, lui dit-elle, qu'un ange de Dieu m'aime et garde mon corps avec un soin jaloux. S'il sent que tu viens vers moi avec un amour souillé, aussitôt il te poursuivra de sa colère et tu perdras la fleur de ta gracieuse jeunesse. Si au contraire il sait que tu m'aimes d'un amour sincère et immaculé et que tu gardes ma virginité intacte et sans souillure, il t'aimera comme moi et te montrera sa grâce. » Moi, je trouve ça horrible, un texte comme ça, soit dit entre nous, car je crois qu'un mari qui s'avance vers sa femme pour l'aimer d'un amour charnel peut l'aimer d'un amour très pur, très généreux et très flamboyant dans le sacrement de mariage. Ça n'a rien à voir avec ce texte très ancien que je trouve bien pénible pour ma part. Je vous l'ai lu, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je sais bien que Jacques Maritain et Raïs Samaritain ne se sont jamais unis charnellement et ont été des époux chrétiens admirables et qui sont morts vraisemblablement comme des saints, mais quand même. Alors saisi de crainte, Valérien lui dit, « Si tu veux que je croie tes paroles, montre-moi cet ange, et si j'ai la preuve que c'est un ange de Dieu, je ferai ce que tu demandes. Et si tu aimes un autre homme, je te frapperai du glaive et lui aussi. » Alors Cécile lui promit qu'il le verrait. S'il consentait à être purifié, Valérien demanda par qui, et Cécile lui expliqua, « Va sur la voie Appienne au 3e mille, tu trouveras des pauvres qui sollicitent l'aumône des passants, et tu leur demanderas de ma part, ils te conduiront au vieillard urbain, c'est-à-dire le pape urbain, il te purifiera, te revêtira de vêtements blancs, avec lesquels tu reviendras dans cette chambre, et alors tu verras mon ange. » Alors, nous avons abordé la légende de Sainte Cécile. Nous sommes rendus au moment où elle dit à son mari qu'il faudrait qu'elle demeure vierge, etc. Et Valérien, dit l'histoire, obéit, n'est-ce pas? Il a trouvé le pape Urbain. Qui était le pape Urbain? Mais c'est un Romain. Il était né à Rome. Il a été élu en l'an 222. Il est mort en l'an 230. Et c'est lui, selon la légende, n'est-ce pas, qui a converti Sainte-Cécile au christianisme. Puis en l'an 230, l'année de sa mort, bien, il a fait construire au Transtévère, comme je vous avais dit, une église. C'est là que repose le corps de cette patronne des musiciens, Sainte-Cécile. Donc, il trouve Urbain, qui avait déjà confessé publiquement deux fois sa foi au Christ, et qui se cachait au milieu des tombeaux, parce qu'on voulait le tuer. Et il lui a raconté ce qu'avait fait Cécile. Alors, le pape Urbain s'est réjoui beaucoup, tombé à genoux, et il a rendu grâce en versant des larmes au récit que lui faisait Valérien de tout ce qui était sa femme. Alors, il a déclaré, le pape, « Seigneur Jésus-Christ, toi qui sèmes de chastes désirs, reçois les fruits de la sentence que tu as semée dans Cécile, de la semence, pardon, que tu as semée dans Cécile. Seigneur Jésus-Christ, bon pasteur, ta servante Cécile t'a servi comme une abeille persuasive, car l'époux qu'elle a reçu comme un lion féroce, elle te l'a amené comme un agneau très doux. Un agneau très doux. Ce sont vraiment des récits où on insiste tellement sur la chasteté, même à l'intérieur du mariage, que ça déborde l'entendement. Je crois que la chasteté à l'intérieur du mariage est une vérité. Les époux se doivent d'être chastes à certains moments. La maladie les y oblige. La séparation momentanée à cause d'un voyage, des responsabilités, la naissance d'un enfant, le désir d'espacer les naissances, quantité de raisons, et des époux se doivent, à certains moments, de pratiquer la chasteté. Et c'est peut-être une chasteté beaucoup plus difficile à pratiquer que celle des gens qui sont constamment chastes. C'est encore peut-être plus héroïque. Mais là, quand on insiste sur cette chasteté totale des époux, on reste un peu pantois. De toute façon, le récit continue en disant que comme Urbain demandait au Seigneur d'éclairer Valérien, le mari, apparut subitement un vieillard vêtu de vêtements blancs comme la neige et tenant dans ses mains une inscription en lettres d'or. Alors Valérien, terrifié, tomba à terre comme un mort. Le vieillard le releva, lui fit lire l'inscription. Voici ce qu'il avait écrit. « Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. » Vous connaissez ce texte. « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et en nous tous. » Ben, c'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, n'est-ce pas? « Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et en nous tous. » Et le vieillard lui demandait s'il croyait. Alors Valérien répond, « On ne peut rien croire de plus vrai sous le ciel. » Alors le vieillard est disparu et Urbain l'a baptisé tout de suite, car il n'était pas baptisé, c'était un païen. Cécile avait épousé un païen. Alors il l'a instruit et puis a renvoyé Valérien à Cécile. Le mari trouve sa femme dans sa chambre, avec à ses côtés un ange du Seigneur. Elle lui avait promis, qu'il verrait son ange. Alors voilà qu'elle a à côté d'elle un ange Seigneur qui tenait dans ses mains deux couronnes de roses et de lys. Ce sont des légendes. Il faut prendre ça comme des contes. Essayez de les interpréter et de les saisir. Alors l'ange offre l'une des couronnes à Cécile et l'autre à Valérien, en leur disant qu'elle ne pourrait être vue que par ceux qui auraient autant qu'eux l'amour de la chasteté. Puis il demanda à Valérien s'il désirait quelque chose. Alors il avouait qu'il ne souhaitait rien tant que la conversion de son frère Tiburce. Et l'ange lui promit que cette conversion ne tarderait pas. Alors voici le petit récit de la conversion de Tiburce que je résume. Tiburce arriva et en embrassant sa belle-sœur Cécile, s'étonna qu'elle répandît un si doux parfum de lys et de rose. Paraît-il qu'il y a des saints comme ça qui ont répandu des odeurs, Il y a même des saints dans leur tombeau comme Saint Charbel Maclouf, dont je vous parlerai quelques jours avant Noël, un saint libanais qui répand, son tombeau répand encore des parfums. On l'assure. C'est aujourd'hui. Et alors donc, Valérien, le mari essaya de lui expliquer à son beau-frère que Cécile, à son frère que Cécile, et que lui-même portait des couronnes qu'il pourrait voir ainsi que l'ange qui l'avait instruit s'il voulait bien être purifié. Alors Tiburce, ne comprenant pas l'argumentation de son frère, pensait probablement qu'il avait perdu plus ou moins la boule, alors Cécile a pris la parole pour lui prouver que les idoles n'ayant aucune vie ne peuvent être des dieux. Les idoles n'ont aucune vie. Ils ne peuvent être des dieux. Nos idoles, la richesse, les billets de loto, la richesse instantanée, le sexe, l'orgueil, la susceptibilité, tout ça, ce sont des idoles avec lesquelles on s'éloigne de Dieu et des autres. Ça n'a pas de vie, ça. Tiburce, lui, a approuvé tout de suite ce que son frère disait. Celui qui ne croit pas cela, est une bête. Alors Cécile l'a embrassé, puis l'a invité à suivre son frère pour être purifié. Mais quand il eut appris qu'il voulait le conduire au pape Urbain, Tiburce s'est dit, est-ce que cet Urbain, c'est pas celui-là là, que les chrétiens appellent leur pape? J'ai entendu dire qu'il a déjà été condamné deux fois, mais qu'il est obligé de se cacher, et si on le trouve, on le brûlera, et nous autres avec. Alors, en cherchant la divinité qui se cache dans les cieux, nous encourons sur terre la fureur du feu. Et que nous gagnerons en perdant celle-ci. Puis lui, il dit, je n'en avais jamais entendu parler. Il y a donc une autre vie. Alors Cécile fit ressortir la valeur de la vie future et les malheurs de la vie de la terre. Puis pour répondre aux questions de Tiburce, elle lui exposait quoi? C'est très beau, dit le récit qui date de l'an 500. Elle lui exposait la Trinité, l'incarnation, la prédication du Christ, sa passion et sa résurrection. Puis elle a terminé en opposant le sort des fidèles qui, à la mort, iront au paradis, à celui des autres hommes qui n'auront plus rien que leur péché. C'est un résumé que je vous fais, parce que c'est très long tout ça, et ces exposés sur la Trinité sont très beaux, l'incarnation, etc. Alors Tiburce, le beau-frère, est conquis. Il se fait conduire au pape Urbain, qui le baptise et le garde 7 jours auprès de lui pour l'instruire. Et désormais, il a pu voir chaque jour, dit-on, les anges du Seigneur et obtenir tout ce qu'il demandait. Alors là, il y a le martyr de Tiburce, de Valérien et de Maxime. Alors, le préfet de la ville, Tursius Almacius, on paraît qu'il n'aurait jamais existé, disent les historiens, on n'est pas sûr, ou du moins pas à cette époque. De toute façon, le préfet de la ville avait commandé de massacrer les chrétiens et de les laisser sans sépulture. Alors, Tiburce et Valérien, les deux frères, qui passaient leur temps à les ensevelir, ont été dénoncés et amenés au préfet. Alors, l'interrogatoire de Tiburce ne donna aucun résultat, et celui de Valérien n'en a pas eu davantage. Là, le préfet leur ordonne de sacrifier aux dieux et sur leur refus, il les condamne au fouet, aux verges, quoi. Alors là, le juge, ou si vous voulez, l'assesseur du préfet, que l'on nomme dans le test Tarquinius Lacca, proposa de les exécuter immédiatement, de peur qu'ils n'utilisent les attentes, les délais, là, à soustraire leurs biens à la confiscation, en les distribuant aux pauvres. Alors là, le sous-officier qu'on appelait dans ce temps-là le corniculaire, Maxime, fut chargé de les conduire dans la campagne devant une statue de Jupiter et de les exécuter s'ils ne voulaient pas sacrifier. Et le récit de la passion, de la vie de Sainte-Cécile continue. On dit que, ému par la jeunesse des victimes, eh bien, il leur demanda, c'est-à-dire s'est étonné d'abord de leur joie, et quand il a entendu leur explication, il leur demanda de l'instruire. Alors là, les deux frères, Valérien et Tiburce, lui ont conseillé d'obtenir des bourreaux, de les amener passer la nuit dans sa maison. C'est assez surprenant, et ils parlèrent si bien que tous se convertirent, raconte cette légende. Alors là, la nuit suivante, Sainte-Cécile est venue avec des prêtres qui ont baptisé Maxime, sa famille et les bourreaux. Et à l'aurore, bien Cécile leur dit: allez, soldats du Christ, rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 13. Combattez le bon combat. Achevez votre course. Gardez la foi. Allez à la couronne de vie. Que Dieu juste juge donnera non seulement à vous, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Inspiré de l'Épître à Timothée. Alors là, les martyrs ont été conduits au temple de Jupiter. Ils ont refusé de brûler de l'encens. Ils ont été décapités. Et Maxime a vu des anges, dit le texte, venir chercher leurs âmes. Beaucoup le crurent et se convertirent. Et quand le fameux Tursius Almacius a appris que le corniculaire, le sous-officier Maxime, était devenu lui-même chrétien, il a ordonné de le battre avec des fouets plombés, comme Jésus a été fouetté là, avec des fouets, avec des plombs au bout, là, jusqu'à ce qu'il en meure. Sainte Cécile l'enterra là où elle avait déjà enterré Tiburce et Valérien, son mari, dans un sarcophage neuf, sur lequel elle a fait sculpter un phénix, pour rappeler sa foi en la résurrection. Un phénix, vous savez, c'est cet oiseau fabuleux, unique, qui se brûlait lui-même, dit-on, sur un bûcher, pour renaître de ses cendres. C'est toujours le phénix, c'était un symbole de la résurrection de Jésus. Alors, il y a eu la conversion de plus de 400 personnes. Almacius a ordonné de rechercher les biens des deux frères. Et Cécile a été arrêtée comme épouse de Valérien et sommée d'offrir de l'encens aux idoles, et elle a répondu qu'elle préférait la mort. Ce qui bouleversait beaucoup de gens qui étaient touchés par sa beauté. Alors, elle a profité de leur bonne disposition pour leur expliquer que Dieu rendait au centuple. Et quand elle a eu achevé, elle est montée sur une pierre pour leur demander croyez-vous ce que je dis ? Et tous répondirent, nous croyons que le Christ, fils de Dieu, est le vrai Dieu, lui qui possède une telle servante. Et Cécile les envoya réclamer un délai à Almacius pour avoir le temps de les faire participer à la vie éternelle. Alors là, le pape Urbain est venu baptiser plus de 400 personnes de tous sexes, raconte toujours cette légende. Conditions, de différentes conditions, des âges très différents. Et c'est ainsi que finalement, Almacius a ordonné qu'on lui amène Cécile. Il l'a interrogé. Il lui dit « Votre nom ». Et Cécile dit, elle répond « Cécile », n'est-ce pas ? La question suivante, « Votre condition ?»« Franche, noble », répond Cécile. « Je te demande ta religion. » Alors, elle dit, « Votre interrogatoire risque de devenir absurde, puisque vous pensez avoir deux réponses à une seule question. » Alors, lui, il lui dit, « D'où vous vient une telle présomption pour répondre ainsi ?» Elle dit, « D'une bonne conscience et d'une foi non feinte. » Il lui dit, « Ignorez-vous ma puissance ?» Alors, Cécile lui dit, « C'est vous qui ignorez votre puissance. Si vous m'interrogez à mon sujet, à son sujet, au sujet de votre puissance, je vous l'expliquerai. » Alors, il lui dit, « Dites ce que vous savez. » Et là, elle parle de la puissance, Cécile. Elle dit, « Toute puissance humaine est comme une outre gonflée de vin, à qui une aiguille fait perdre sa rigidité. » Alors lui, il lui dit, « Vous commencez par des injures et vous y persévérez. » Et elle répond, « Il n'y a pas d'injure si ce n'est dans les mensonges. Montrez-moi si j'ai menti, ou bien rétractez votre calomnie. » Alors Almacius la somme de renier sa foi ou de sacrifier aux idoles. Et Cécile a répondu en raillant, en se raillant de la législation qui persécute les chrétiens. Puis en faisant remarquer au juge, que sous prétendu droit de vie et de mort n'était seulement une possibilité de tuer et non de ressusciter. Alors elle a terminé en se moquant des idoles. Ce qui a provoqué la colère d'Almacius. La philosophie me fait mépriser les injures que vous adressez aux dieux, lui dit-il. Alors Cécile a insisté sur l'inutilité des idoles, sur leur impuissance, et elle a conseillé d'en faire de la chaux. Alors, furieux, Almacius a ordonné de la conduire dans sa maison et de la brûler dans sa salle de bain, car on prétend l'avoir trouvé son corps dans la salle de bain des Chichili, la grande famille riche, là. Après un jour et une nuit, le feu l'avait si peu incommodée qu'elle n'était même pas couverte de sueur. Almacius, averti, envoya un garde la décapiter. Il la frappa trois fois sans lui trancher la tête, puis il la laissa à demi-morte. On dit dans la légende que ça lui avait pris quelques jours à mourir et su qu'elle avait converti son venu étancher son sang avec des linges, tandis qu'elle ne cessait de les fortifier dans la foi. Elle leur partagea ses biens et les recommanda au pape Urbain en lui disant, « J'ai demandé un délai de 3 jours pour livrer tout cela à votre béatitude et consacrer ma maison en église. » Alors saint Urbain, le pape avec ses diacres, a enlevé son corps de nuit pour l'enterrer au milieu de ses collègues les évêques, là où sont les confesseurs et les martyrs, c'est-à-dire dans les catacombes de Saint-Calice dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il a fait de sa maison une église. Les bénédictins de Paris ont écrit il y a quelques années, après l'analyse de tout ça avec d'autres spécialistes, une critique assez sévère de cette passion. Mais c'est pas pour en détruire la qualité mystique ou la valeur spirituelle, mais pour mettre certaines choses au point. Ils disent que dans l'introduction, l'auteur anonyme de cette passion, de cette biographie de Sainte-Cécile, ben, il laisse clairement entendre qu'il écrit longtemps après les événements qu'il prétend raconter. On constate, c'est sûr qu'on constate que cet homme-là était imprégné d'idées qui ne se sont pas manifestées avant le 4e ou le 5e siècle. Quelles sont ces idées? On va le voir. On peut lui reconnaître, d'accord, un certain talent à cet auteur, mais ça lui mérite pas le titre de grand écrivain. sale place dans l'ensemble des biographies de saints de cette époque. Il est vrai que le plus souvent, on juge toute son œuvre à travers des adaptations qui en ont été faites après coup, peut-être. En tout cas, d'après le seul récit du mariage de Sainte Cécile qui domine l'ensemble de ce récit par sa qualité et puis par certaines retouches. Mais ce mariage est très curieux, comme disent les bénédictins. L'épisode n'est pas dénué de vraisemblance, disent-ils. Dans une société où les parents possédaient une autorité absolue, mais les enfants n'avaient qu'à se soumettre au projet de mariage qui était décidé sans qu'ils le désirent. Et souvent, bien, la chambre nuptiale était le premier endroit où ils pouvaient s'entretenir librement. Ils ne pouvaient pas se rencontrer avant et se parler seul à seul. Alors là, dans la chambre, il peut se dérouler des choses. C'est possible, hein, comme ils disent. C'est peut-être arrivé plusieurs fois que des jeunes gens qui étaient désireux de garder leur virginité ne puissent le faire qu'en simulant un mariage. On dit, dans le texte ici, des bénédictins de Paris, du 20e siècle... Vous savez qu'il y a une abbaye à Paris, une abbaye bénédictine dans le 16e arrondissement. C'est une abbaye de la même congrégation que Saint-Benoît-du-Lac, près de Magog. Alors cette aventure, qui est assez tendre, assez édifiante, de Cécile et de Valérien, ça a toujours enchanté un certain public. C'est devenu même une espèce de cliché dans les vies de saints. Et au 5e et au 6e siècle en particulier, il y avait tout un milieu de dévots, là, très imprégné des idées monastiques, qui avait pour la virginité une espèce d'estime irraisonnée, un peu mêlée même. C'est ce que disent les bénédictins eux-mêmes, qui sont des hommes vierges, qui sont des hommes qui vivent dans la chasteté totale, dans leur couvent, dans leur monastère. Hein. C'est eux qui disent ça. Je crois qu'ils ont en grande partie raison. Je crois que notre corps, Dieu l'a fait, il l'habite. Nous sommes des temples, des tabernacles vivants. Et notre corps est ainsi organisé qu'il peut devenir, dans l'âme, amoureux de quelqu'un d'autre, d'une épouse ou d'un mari, et que nous sommes faits ainsi dans la gloire de Dieu pour engendrer d'autres personnes éternelles. Le mariage est un très, très grand sacrement. C'est un des beaux sacrements où Dieu s'unit à l'homme et à la femme pour faire d'autres êtres qu'il aime de toute éternité. Alors, la chasteté totale dans le mariage, si elle est à conseiller dans de très rares cas, demeure exceptionnelle. Il y en demeure pas moins que le mariage est une chose admirable. Et je ne voudrais pas que cette légende de Sainte Cécile déforme toute la spiritualité du mariage. La dévotion à Sainte Cécile s'est répandue. Sainte Cécile a laissé son nom à une église, comme on l'a vu, qu'elle a sans doute fondée dans un certain sens. Elle a été ensevelie près des papes au 3e siècle. Bon, nous sommes d'accord sur tous ces points-là. Quoi qu'il en soit, donc, le 22 novembre a été adopté pour la fête de Sainte-Cécile. Il a été considéré comme le jour de sa naissance au ciel, aussi bien en Orient qu'en Occident. Partout les martyrologes et les calendriers, jusqu'au martyrologe romain de 1922 exclusivement. Et depuis le 16e siècle, on place son martyr sous l'empereur Alexandre Sévère, qui est en effet contemporain du pape Urbain. Et au Moyen Âge, depuis le 9e siècle, on mettait son martyr sous Marc Aurèle ou sous l'empereur Commode. En tous les cas, il faut conclure que Sainte Cécile a fondé au 3e siècle une paroisse, si on veut, un titre dans une maison qui lui appartenait, mais où elle n'a pas habité. Est-ce qu'elle est morte vierge? Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas certain. Est-ce qu'elle est morte martyre? Certainement pas, dit-on. Si elle l'avait été, on l'aurait su au 3e, 4e et 5e siècle. Et que l'on ne s'imagine pas qu'il est impossible qu'on ait transformé de pieux chrétiens en martyrs. Hein? C'est ce que les bénédictins nous disent. L'exemple des premiers papes, tous honorés comme martyrs, suffit à montrer le contraire avec évidence. Hein? Alors, le culte de Sainte-Cécile s'est répandu. Et à la fin du Moyen-Âge, Sainte-Cécile était devenue patronne des musiciens. Puis ça a connu un regain de popularité. Et les progrès de la critique allaient compromettre tout cela en jetant sur sa passion des doutes sérieux. Alors, plusieurs projets de révision de tout ça ont été entrepris, mais de toute façon, nous respectons toujours Sainte-Cécile et la grande basilique de l'église de Sainte-Cécile au Transsévère est toujours un objet de vénération. La sculpture de Maderna dont je vous ai parlé est aussi un des beaux chefs-d'œuvre de la sculpture religieuse à travers les siècles.